Nancy Houston, vous êtes canadienne, vous êtes née en 1953 dans les plaines de l'Alberta. Adolescence américaine ensuite, vos premiers pas à l'université, vous les faites à New York. Parisienne d'adoption depuis 1973, vous vivez également dans le Berry, une région du centre de la France. Drôle de parcours, pourrions-nous dire. Vous avez d'abord écrit dans une langue qui vous était étrangère, le français, avant de retrouver votre langue maternelle quelques années plus tard, l'anglais, lors de la rédaction du Cantique des Plaines. Aujourd'hui, vous passez de l'une à l'autre langue, indifféremment, et cela fait de vous une romancière écartelée entre deux mondes. Écartelée n'est peut-être pas le bon mot. Vous êtes en tout cas de ceux qui apprécient le jeu des identités multiples. Dans Nord perdu, un essai paru aux éditions Actes Sud, vous posiez cette question si complexe. Il est où le vrai soi? Si l'on arrache le masque, à quoi ressemble le visage qu'il révèle? Jeu de miroir, qui se cache derrière la plume? Qui est la vraie Nancy Houston? Dites-nous tout.
Pour vous dire la vérité, c'est une chose en laquelle je ne crois pas. Le fameux adage au-dessus du temple de Delphes en Grèce, comme chacun sait, disait ou dit encore, nous disait, connais-toi toi-même. Moi, je ne pense pas qu'il soit intéressant ni même possible de se connaître soi-même. Je pense que le soi est une chose que l'on construit au fur et à mesure de la vie. Il y a une donnée de départ, évidemment, qui est chromosomique, qui est mystérieuse d'ailleurs, parce que ce n'est pas que chromosomique, même deux jumeaux identiques auront des caractères un peu différents. Néanmoins, à partir de cette donnée, on est le produit de des gens qu'on rencontre, du pays où l'on habite, de la religion qu'on nous inculque, des convictions patriotiques ou nationalistes qu'on nous inflige. Et devenir soi-même, au fond, c'est prendre conscience de cette multiplicité naturelle, enfin, inévitable, que nous sommes tous. Or, cette multiplicité, je crois que les gens expatriés ou exilés en prennent davantage conscience que les gens qui restent chez eux, qui ne bougent jamais, qui ont une sorte d'illusion d'être quelque chose de façon très naturelle, ils en sont très convaincus. Quand on a vécu avec un masque, en l'occurrence pour moi, donc le masque de la française que j'adopte ou que je revais en parlant la langue française de mon mieux, je ne dirais pas maintenant que lorsque je reviens à la langue anglaise, c'est le vrai moi qui parle du tout, parce que j'ai vécu toute ma vie adulte ici, j'ai eu mes enfants ici, ils sont français, je ne peux quand même pas me dire que je suis en train de jouer un rôle à chaque instant de ma vie quotidienne.
Mais quand vous dites que vous êtes le produit d'un milieu social, de gens que vous rencontrez, la religion que vous infligez, justement si on revenait un petit peu en arrière, vous êtes né à Calgary, au Canada, dans une famille de confession catholique.
C'est assez comique, la religion dans ma famille, et ça m'a certainement prédisposé à percevoir cette nature un peu arbitraire des appartenances, puisque mon père et ma mère étaient déjà de deux sectes différentes du protestantisme.
Ils ont... Pourquoi secte ?
On ne dit pas ça. On peut être méthodiste ou presbytérien ou ceci ou cela. Je pense que quand même secte peut être neutre dans ce sens. Toujours est-il qu'ils en ont choisi un troisième en se mariant. Donc, ensuite, ma mère est partie. Mon père a épousé une catholique. Là aussi, ils ont coupé la poire en deux. Ils ont décidé de nous rebaptiser, les trois enfants. Donc, on a été baptisés deux fois. Une fois à l'intérieur d'une église protestante, une fois anglicane. Ensuite, mon père est devenu bouddhiste. Ma belle-mère catholique a cessé d'aller à l'église. Donc, j'ai perçu très rapidement le caractère bougeant et un peu convenu de tout ça. La religion n'était pas ce qu'elle est censée être, à savoir une évidence, une chose qu'on vous donne. J'ai dit infligé tout à l'heure parce que je le perçois comme ça, mais dans les temps traditionnels, ce n'était pas comme ça. On vous donne une religion pour structurer votre vie, pour que vous compreniez le monde, pour vous aider à donner un sens à la vie, la mort, les relations. C'est une structure. On ne choisissait pas au Moyen-Âge entre bouddhisme et catholicisme. C'est absurde. Dans certains pays, on était catholique, dans d'autres bouddhistes. Ici, avec cette multiplicité de religions, à la fois ça peut encore remplir cette fonction de structure pour la vie quotidienne. Et en même temps, on ne peut que se dire, voilà, c'est un peu comme acheter une chemise ou une marque de yaourt.
La religion, la religion, c'est quand même aussi le salut.
pour ceux qui y croient certainement. Mais pour moi, non, je ne crois pas en Dieu du tout. Pour autant, je ne dirais pas que rien n'est sacré pour moi. Il y a des choses qui le sont. Et je ne dirais pas non plus, comme beaucoup d'athées de gauche désespérés, que la vie n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que ce sens n'est pas donné d'avance que la vie en soit dépourvue.
À 6 ans, vos parents divorcent. Ensuite, il y a une série de migrations un petit peu dans le désordre. Vous avez New York, l'Allemagne, Paris en 73, où vous vous installez définitivement avec la ferme idée, dit-on, de devenir écrivain. Alors, on cherche le lien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ?
À vrai dire, les migrations datent d'avant ma naissance et se poursuivent au long de ces 6 premières années de ma vie où mes parents étaient encore ensemble. C'est même l'une des grandes raisons du divorce, puisque ma mère prétend, je pense qu'elle s'est comptée, qu'ils ont déménagé 18 fois pendant leurs 9 ans de mariage. Ça fait en moyenne 6 mois par maison. Parfois à l'intérieur de la même ville, parfois c'était un grand déménagement d'un bout du pays à l'autre, voire aux États-Unis. Ils étaient au Texas pendant un moment. Et elle n'en pouvait plus. À part ces déménagements, leur mariage ressemble beaucoup à celui qu'on voit dans l'histoire 1951 du film The Hours, avec Julianne Moore qui est censée trouver son épanouissement absolu dans son intérieur, avec les meubles et les aspirateurs et les gâteaux d'anniversaire. Et ma mère ne pouvait pas supporter cette idée et se sentait complètement noyée par les tâches domestiques et maternelles. Cette époque n'encourageait pas du tout d'autres formes d'aspiration chez les femmes, surtout les mères. Et donc, elle a fait comme cette femme dans le film, elle a claqué la porte, elle est partie très loin. Donc ça, c'est effectivement, je pense que c'est pertinent d'en parler, parce que si elle n'avait pas eu ce geste, je ne serais pas devenue écrivain. Et encore moins écrivain de langue française. Puisque je pense qu'il a fallu vraiment m'éloigner de la langue maternelle pendant quelques temps pour me construire une autre identité, pour porter un masque, pour me protéger pendant quelques années, pour ne pas souffrir de la même vulnérabilité qui pouvait être la mienne dans la langue et le pays d'origine. Du reste, mon frère aîné, qui avait 8 ans au moment du divorce, et lui aussi totalement francophone. Il habite au Québec, il parle avec un autre accent que moi, mais sa vie quotidienne se déroule du matin au soir en français. Les gens rigolent quand ils nous entendent parler ensemble.
Changer de langue sur une ligne de fuite, enfin, je pense à cette idée de sortir de la langue maternelle, de s'éloigner de la mère.
C'est elle qui s'est éloignée.